1, 2, 3, 4.
Dans cette séquence, nous allons voir comment le changement des conditions de proximité, des conditions concrètes au cours du temps, contribue à transformer les objets de l'espace géographique. Il s'agit de ce qu'on appelle une réorganisation spatiale. La proximité se modifie au cours du temps en fonction de la vitesse possible pour les déplacements et les communications. Au cours du temps, la vitesse de communication augmente, les capacités de transport également, le coût du transport a tendance à se réduire et il se trouve que cela contribue non seulement à augmenter la portée des déplacements, mais aussi la fréquence et l'intensité des échanges. Les transformations des entités géographiques qui s'opèrent sont connues sous l'appellation de contraction de l'espace-temps. Dans la mesure où on peut se rendre en très peu de temps beaucoup plus loin, on a l'impression que la Terre s'est rétrécie, que le monde se rétrécit. Et du même coup, les objets, les entités géographiques que l'on peut définir à tous les niveaux, des régions, des villes, des territoires, ont tendance à s'étendre. Mais ils le font d'une manière relativement inégale, et c'est ce que le géographe américain Donald Janel a appelé cet ensemble de transformations, la réorganisation spatiale. Quels sont les effets sur les dimensions des entités géographiques? Eh bien, dans le cas des villes, il s'ensuit une dilatation et cette dilatation de l'espace urbain est liée au fait que les personnes consacrent à peu près toujours la même durée, environ une heure chaque jour de 24 heures, pour rejoindre les trois ou quatre lieux différents pour leurs activités quotidiennes. Donc, quand la vitesse des transports augmente, les personnes ne réduisent pas le temps qu'elles consacrent au déplacement, mais ont tendance à augmenter cette distance parcourue. On l'observe bien en suivant l'évolution du diamètre possible pour les villes, qui au temps des omnibus à chevaux était de l'ordre de 5 km, compte tenu de la vitesse de déplacement de l'époque. Et cette vitesse augmentant, eh bien, avec la diffusion massive de l'automobile, aujourd'hui, il est possible de trouver des villes dont le diamètre est de l'ordre de 50, voire 60 km. Cela peut s'observer facilement en regardant cette carte sur laquelle Fabien Paulus a redessiné avec les définitions actuelles l'extension qu'auraient eu les aires urbaines en 1968 en tache orange sur la carte avec l'extension actuelle indiquée en vert. Dans cet intervalle de quelques décennies, la superficie occupée par les villes a été multipliée par 5, alors que la population n'est qu'une fois et demie plus grande. Et dans le même temps, on a donc un desserrement des densités de population dans les villes, presque une division par 3 de ce niveau de densité sur cet intervalle d'une trentaine d'années. En fait, on peut schématiser l'extension récente des villes, comme sur le diagramme suivant, où on a figuré en haut des distances en kilomètres. Et donc, on a d'abord des croissances qui se font au temps T1 à l'intérieur de la ville, puis dans une auréole de banlieue et de faubourg, et enfin dans le périurbain. Mais dans le même temps, les temps de parcours, vous voyez sur l'échelle de droite, ont été considérablement réduits. Et donc, si on figure cette fois-ci l'échelle de temps constante, avec donc des kilomètres qui deviennent de plus en plus importants et couverts dans le même temps, eh bien, on peut définir l'extension, l'augmentation de population des villes comme une auréole de 30 minutes d'accès qui reste en croissance relative tout le temps. Et cela a été effectué sur l'exemple de Montpellier pour toute la période depuis 1850 jusqu'à aujourd'hui. On a une carte qui représente les communes de l'arrière-pays et qui figure en jaune ceux dont la population est relativement en croissance par rapport à un dépeuplement rural qui s'opère dès cette deuxième moitié du 19e siècle. Vous voyez que les zones en jaune couvrent en fait l'aire spatiale qui reste dans un rayon de 30 minutes d'accessibilité du centre de Montpellier. Donc on a une coïncidence entre l'espace dynamique, l'espace en croissance et la définition concrète de ce qu'est la ville, l'espace de proximité intra-urbain. Donc nous en déduisons une définition évolutive de la ville qui est notre espace-temps du quotidien, où nous effectuons des temps de trajet de l'ordre d'une heure chaque jour, mais dans des réseaux de circulation dont la vitesse demeure faible, elle n'a été multipliée que par un facteur 5 depuis 2 siècles, et cela pour des interactions spatiales assez fréquentes de l'ordre de 3 à 4 chaque jour pour chaque personne. Nous pouvons bien entendu pratiquer des interactions à un autre niveau, et ce niveau, c'est celui qu'on appelle le système des villes, entre des villes différentes et plus espacées, qui permettent de contrôler à plus longue distance des territoires politiques, des réseaux économiques. Là, le temps critique pour joindre ces nœuds dans ces réseaux est beaucoup moins strict, mais il est de l'ordre de la journée. Et par exemple, on peut considérer que l'Europe, les grandes villes européennes, constituent un système aujourd'hui parce qu'elles sont accessibles en une journée pour aller y travailler, y faire des affaires ou autre. Mais dans cet espace, la vitesse qui permet de joindre les nœuds des réseaux a considérablement augmenté. Elle a été multipliée par 40 en l'espace de 2 siècles. Et donc, grâce aux TGV et aux lignes aériennes, on peut pratiquer ces interactions qui sont certes moins fréquentes que les interactions quotidiennes, mais qui n'en contribuent pas moins à structurer très fortement le système des villes. En effet, si l'on regarde quelles sont les destinations devenues accessibles en un jour de voyage, ici sur une échelle logarithmique des distances, on voit que c'était de l'ordre de la région vers 1800, dans des limites de territoire étatique vers 1900, et aujourd'hui, on parvient à parcourir le monde à ces extrêmement grandes vitesses. Donc, on a dans l'espace géographique des phénomènes d'émergence des entités spatiales qui sont fabriquées, constituées par des interactions. Ici, vous avez des représentations d'individus qui, en interagissant, donc à un niveau micro, vont au niveau méso fabriquer de la ville avec des propriétés émergentes qui n'appartiennent pas aux individus qui l'occupent, qui la constituent, mais qui sont propres à l'espace urbain, comme la centralité, certaines fonctions, même des ambiances urbaines qui sont des propriétés aussi bien subjectives que objectives. Et ce qui est moins connu, c'est que par les interactions qu'elles ont entre elles, grâce aux acteurs qui les visitent et qui y sont présents, eh bien, les villes construisent également des entités géographiques qu'on appelle des systèmes de villes. Et donc, à ce niveau d'interaction plus vaste, sur des portées bien plus larges, on a des propriétés émergentes qui n'appartiennent pas à une seule ville, mais à l'ensemble qu'elles forment, et qui sont une différenciation hiérarchique, une différenciation fonctionnelle, une très grande diversité, et également une organisation dans l'espace relativement régulière. Donc, c'est en ce sens que l'on peut dire que les interactions construisent des territoires. Et cela aussi bien à l'intérieur des villes, où l'on observe de très forts gradients de densité, de prix entre le centre et la périphérie, qui induisent des ségrégations sociales dans cet espace. Et dans l'espace des systèmes de villes, on a une très forte différenciation hiérarchique, donc entre les tailles de villes très inégales, qui correspondent également à des capacités à capter les innovations extrêmement différenciées. Et il s'ensuit une grande diversité fonctionnelle et sociale des villes à l'intérieur d'un même système. Pour visualiser encore ces transformations, nous avons ici une représentation par Anne Bretagnol, très raccourcie, de la dilatation de l'espace urbain et de la contraction de l'espace interurbain. Regardez Saint-Denis qui est encore distinct de Paris en 1900, tandis que Reims, Châlons et Troyes sont sur une première auréole à au moins une journée, plus d'une journée de trajet en partant de Paris. En 1900, nous avons déjà l'agglomération parisienne qui a rattrapé, qui a englobé Saint-Denis comme une banlieue et un rapprochement très considérable de la première auréole, puisque c'est maintenant Strasbourg qui se trouverait, grâce au chemin de fer notamment, à distance presque équivalente de ce qui était autrefois les positions de Reims, Châlons et Troyes. Et en 2000, eh bien, ce sont désormais les villes de la première auréole qui font presque partie de l'agglomération parisienne. En tout cas, beaucoup de navetteurs circulent entre ces villes et Paris. Et à la distance temps qu'occupait Strasbourg, nous aurions désormais Pékin. Donc on peut considérer que pour ce qui est de l'espace entre les villes, nous avons un rétrécissement considérable de l'espace-temps qui apparaît sur ce graphique où nous avons toujours en échelle logarithmique des distances et nous voyons que la progression de la mobilité possible dans l'espace intra-urbain est beaucoup plus lente en termes d'extension des déplacements parce que les vitesses sont moins grandes, alors que dans l'espace interurbain, on a une progression beaucoup plus rapide de l'accessibilité de l'espace d'activité. Donc, nous avons à côté de ces transformations quantitatives assez considérables, des effets, des échanges par la proximité qui ont construit progressivement au cours des temps historiques, d'abord après le néolithique, l'émergence, ou même avant le néolithique plutôt, l'émergence de langues communes pour échanger, les ressemblances culturelles qui s'ensuivent, l'homogénéité régionale des paysages et aussi la cohésion territoriale, d'abord dans des cités-États, puis des royaumes, voire des empires éventuellement beaucoup plus grands, jusqu'aux nations et aux réseaux transnationaux actuels où s'effectuent principalement des intégrations qui ne sont plus d'ordre politique mais d'ordre essentiellement économique et qui se traduisent par des entités géographiques différenciées et hiérarchisées. En effet, les réseaux qui apportent des vitesses plus grandes, sélectionnent d'abord les nœuds les plus importants de chaque système pour s'y implanter et d'autre part, court-circuitent les plus petits centres liés aux anciens réseaux. Pensez à toutes les gares de chemin de fer qui ferment ou qui sont ignorées par le TGV par exemple. Nous avons une représentation faite par Anne Bretagnol de l'évolution du réseau postal qui montre bien que ce sont d'abord les principales villes du territoire qui sont desservies au XVIe siècle par les routes pavées qui permettent un accès rapide et facile aux extrémités du royaume. Et puis, au fur et à mesure que les routes nouvelles sont installées, nous voyons qu'elles sont plus nombreuses, plus denses dans les parties les plus développées du territoire qui, à l'époque, étaient encore localisées dans la moitié nord de la France. Un siècle plus tard, avec le réseau ferré, nous voyons à quel point le nombre des étapes nécessaires pour relier deux villes, ici Lyon et Avignon, a diminué au cours du temps. Nous en avions une douzaine au temps des diligences et au temps des trains express des 1900, il n'y a plus qu'une étape Valence entre Lyon et Avignon et aujourd'hui un train direct entre Lyon et Avignon. De même, dans ce qu'on appelle aujourd'hui le processus de mondialisation, nous n'avons plus des territoires qui cherchent à s'étendre par des moyens politiques, conflictuels et armés, on l'espère, mais surtout des réseaux d'entreprises qui établissent des connexions de plus en plus loin et qui contribuent à fabriquer un réseau mondial de plus en plus dense et de plus en plus riche. De manière concomitante, nous avons donc une constatation selon laquelle la réorganisation spatiale, pour résumer, consiste principalement en une tendance à la mondialisation et à une certaine homogénéisation, Mais dans le même temps, comme elle s'opère à travers des réseaux qui différencient les territoires, nous avons une structuration hiérarchique qui a tendance à augmenter les inégalités.